Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Il y a des faits, des moments, des événements qui sont intemporels. Et quel que soit le temps qui passe, les mois, les années, les siècles, eh bien ces histoires, ces moments restent ancrés, inscrits dans la mémoire collective. Parce que tout simplement, ce fut par exemple pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui un drame humain, et puis quelque chose qui n'était pas prévisible. Ce devait être une grande fête, ça a été une grande fête au départ, et puis le naufrage, et puis la mort, le désespoir, cette immensité froide qui a recueilli en ce sein des femmes, des hommes et des enfants. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui traite un peu de ce sujet avec l'histoire de deux sœurs. Mais pour nous parler de cette belle histoire, je suis heureuse d'accueillir un écrivain que je découvre, dont le parcours est atypique. Ça la rend d'autant plus attachante avec cette belle écriture vive, impérieuse et intelligente aussi. Bonjour Laurence Perrin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes pour votre dernier roman Après l'océan, l'océan aux éditions Kalman Levy. Alors, on le disait hors antenne et je le disais en préambule, vous avez un parcours tout à fait atypique.
Oui.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai lu sur vous. Vous avez décidé un jour, alors vous avez été journaliste, hein, vous avez travaillé pour le Dauphiné libéré, vous avez eu la reconnaissance de nos pères, dirais-je, et puis un jour, vous avez tout abandonné, vous êtes parti avec vos 6 enfants sous le bras, et vous avez eu envie d'écrire, vous avez commencé à écrire. Ça n'a pas toujours été facile aux grandes dames de votre famille qui disaient « Mais mon Dieu, comment va-t-elle faire pour s'en sortir ?» Voilà. Et puis elle s'en est sortie, Laurence Perrin, avec l'écriture, la reconnaissance d'autres pères. Et puis pour notre plus grand plaisir, vous vous êtes mis à écrire. Et Après l'océan est votre nouveau roman.
C'est ça, oui. J'ai été journaliste pendant une 20aine d'années.
Oui.
Mais je crois que je m'étais trompée de métier, en fait.
Oui. Ça arrive. Ça arrive.
Oui, mais en fait, tout partait de l'envie d'écrire depuis toute petite.
Oui.
Et j'ai été journaliste avant tout pour écrire.
Mm-hmm.
Et j'étais persuadée pendant très longtemps que j'avais aucune imagination. Pourquoi ?
Ouais.
Parce que quand on est journaliste, on s'attache au réel, bien évidemment. Et je savais très mal le faire parce que j'étais plutôt dans l'observation, moi. Donc voilà, dans l'observation, journaliste pas très vive, on va dire, pas très réactive, surtout, et toujours persuadée d'avoir aucune imagination, puis en fait, bon, la suite m'a démontré le contraire.
Oui, ça je confirme. Alors votre roman, Après l'océan, tout commence en 1912, on parle du Titanic, 14 avril 1912, le naufrage, 1491 victimes dans la mer du Nord, une eau froide qui a refermé ses griffes sur ces hommes et ces femmes après le naufrage du Titanic.
Oui.
Là, il y a deux sœurs, Molly et, ça y est, j'ai oublié le prénom de la seconde.
Et Letta,
Alistair, qui se sont embarqués. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant, si je puis dire, c'est leur père, qui était nommé The King of the Pie, le roi de la tourte. Et alors, ce qui est assez intéressant, moi, tout au long du livre, à croire que les pages ont été imbibées de ces fumées, j'ai eu l'odeur un peu comme ça dans la tête. J'ai imaginé ce père. Alors, elles vont le perdre au cours du naufrage. Elles vont se retrouver toutes les deux.
Oui. Elles vont le perdre comme une grande partie de leur famille.
Oui.
Alors, pour commencer par les tourtes, on dit toujours que les Anglais cuisinent très mal, mais il y a une chose qu'ils font très bien, c'est les tourtes.
Oui.
Hein, sucrées, salées.
C'est vrai, c'est vrai.
D'où les fumées du roman.
C'est vrai.
Oui, en fait, c'est l'histoire d'une famille moyenne.
Oui.
Moyenne qui vit bien, qui vit très bien même de son travail en Angleterre. Ce sont des boulangers qui ont pignon sur rue.
À Portsmouth.
À Portsmouth. Et donc, un jour, un riche Américain s'arrête dans l'échoppe qui tiennent, enfin, qui passait d'une échoppe à une sorte de petit restaurant quand même, et trouve que les tours sont délicieuses. Elle leur propose de venir, comme ça, sur un coup de tête, venir faire fortune en Amérique.
Mmh.
Et puis, en fait, c'est une famille qui rêve, hein, comme on rêve tous,
hein,
même s'ils sont vraiment pas dans la misère du tout. Mais ils font partie de cette classe moyenne, en fait. Et moi, ce que je voulais symboliser à travers eux, c'est justement, évidemment, évidemment pas les milliardaires, même si j'en parle beaucoup, qui sont morts dans le naufrage, ni la troisième classe où ça a été vraiment une catastrophe, parce qu'il y a même des familles entières dont on n'a plus du tout de traces, même écrites. Et donc la classe moyenne représente vraiment ces gens qui n'étaient pas obligés de partir, mais qui ont décidé de le faire pour avoir une vie meilleure et puis exporter leur savoir-faire. Donc ils partent à 6 et elles n'arrivent qu'à 2.
Alors là, les classes, alors il y avait bien sûr les premières classes où là, bien évidemment, les gens, on peut aller dans les canaux. La deuxième classe, on peut aussi à peu près s'en sortir, en tout cas quelques-uns. La troisième classe, bien évidemment, au fin fond du bateau, c'est là où il y a eu également le plus grand nombre de victimes. Oui. Alors, moi, ce que je me suis dit, c'est vrai que vous auriez pu trouver un autre théâtre, dirais-je, de manifestation de votre écriture. Il y a d'autres mers, d'autres bateaux. Pourquoi le Titanic? Pourquoi 1912? Pourquoi à ce moment-là?
À ce moment-là, parce qu'on a dit que le 19e siècle s'était arrêté non pas le 31 décembre 1899, mais bien le 14 avril 1912, parce que là, ça a été avec le naufrage d'un paquebot qui était réputé insubmersible, au point où tous les milliardaires de l'époque, les Astor, les Guggenheim, les Sayers,
étaient à bord.
Son bateau était à bord et sont morts. Donc là, ça a été d'un coup la fin de la d'un certain étalonnage des classes, en fait, et puis de la prétention industrielle aussi, et de cette espèce de croyance en l'immortalité des plus puissants à qui il ne peut rien arriver. Voilà, donc là, vraiment, ça a été un symbole, c'était vraiment un tournant, quoi. Le XXe siècle a vraiment commencé, selon la presse de l'époque, je pense qu'avec le recul, on peut toujours le dire, a vraiment commencé le jour de ce naufrage.
Alors, on vous l'a peut-être sans doute dit, moi, j'ai fait un parallèle au départ, parce que ça commence comme cela, la série d'Antanabe, je suis sûre que nos auditrices et auditeurs la connaissent. Au début, premier épisode de la première saison, l'héritier du château meurt dans le Titanic. Et là, c'est pareil, toute cette famille va devoir se refonder, recréer, retrouver un héritier. Et c'est aussi un peu le début de la fin, c'est aussi le changement d'une monarchie. Et là, ce que vous disiez avec tous ces milliardaires en 1912, il y a effectivement un tournant. Ce qui est incroyable, c'est à cause d'un bateau qui était insubmersible, qui fait naufrage, que toute une société va devoir se reconstruire et se reconsidérer.
Et oui, c'est ça. Donc, c'est la fameuse prétention industrielle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment, c'était une époque où tout a un peu basculé dans le gigantisme. Il y a eu des progrès qui ont été faits en l'espace de simplement un demi-siècle qui ont été phénoménaux. L'électricité, le téléphone, tout un tas de choses. Nous, on l'a encore ressenti encore plus ces 20 dernières années, nous-mêmes. Mais alors vraiment, il y a eu une espèce de stagnation de l'histoire pendant des siècles. Il y a eu en 50 ans beaucoup de progrès comme ça et tout le monde s'est monté la tête avec ça. Et oui, il a suffi d'un bateau pour prouver qu'en fait, même s'il n'y a pas de main divine là-dedans, à moins qu'on y croit, peut-être qu'il y a quand même un destin, quoi. C'est une leçon qui vient de quelque part.
Et puis, pour faire une parenthèse, la guerre de 14-18 n'a fait que parachever cela, en fait.
Bien sûr, c'était le début de la fin. Et d'énormément de morts sur Terre, ça, plus la grippe espagnole ensuite. Il y a eu un tas de choses comme ça au début du siècle qui ont fait qu'effectivement, ça a été la fin d'une époque et le début d'une autre.
Alors, nos deux sœurs, Letta et Molly Alister, se retrouvent toutes les deux. Elles arrivent sur ce bateau. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés à New York, quand vous arrivez en bateau, eh bien, l'une des premières visions que vous avez, c'est la Statue de la Liberté. C'est ce qu'elles voient. Elles vont arriver à cette Statue de la Liberté. Elles vont être logées. On va s'occuper des rescapés. Mais après, la question, c'est que vont-elles devenir? Et là, ça va être toute l'histoire. Comment s'acclimater? Et puis, Molly est plus âgée. Sa petite sœur semble fragile. Elle est dans un état d'hébétitude totale, totalement atone. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué.
Oui, ça va être très compliqué parce qu'en fait, j'ai décidé de commencer l'histoire là où elle se termine.
Parce que c'est
vrai que dans la plupart des romans, et puis dans le film, absolument gigantesque et magnifique de James Cameron, tout s'arrête quand on débarque sur le quai. Moi, j'ai voulu prendre l'histoire à ce moment-là, en fait, quand la petite histoire commence après la grande, parce qu'il y a tous ces gens, quand même, qui sont arrivés. Il y a l'histoire, effectivement, de ces deux survivantes qui symbolisent toutes les autres. Et il y a l'histoire aussi du syndrome de stress post-traumatique dont souffrent la cadette des deux sœurs, oui. puisqu'elle est effectivement frappée de mutisme. Mm-hmm. Et à l'époque, évidemment, ce syndrome de stress post-traumatique n'était absolument pas diagnostiqué. C'est mm-hmm. venu après le Vietnam et la Corée. C'est, oui. Ça a été reconnu.
Les années 70, les années 70.
Dans les, voilà, même dans les années 80, officiellement, oui. simplement. Oui. Hein. Mm-hmm. Donc, je voulais aussi aborder, effectivement, au-delà des choses purement terre à terre, mais qui pourraient laisser quand même quelque chose d'extraordinaire pour les survivants, c'est simplement comment on fait avec les assurances, comment on fait quand on arrive, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien, comment on fait, ces rescapés-là ont été pris en charge, ceux qui ont choisi de repartir chez eux, ceux qui ont choisi de rester, comment ont-ils fait? Et puis bon, les opérations de sauvetage, j'allais dire, ont des limites dans le temps. C'est-à-dire que pendant quelques temps, la Croix-Rouge est là, la charité est là, l'hôtel qui les accueille est là. Mais après, quand on décide de rester, on peut pas faire sa vie sans arrêt comme ça, en comptant sur la solidarité. Donc j'ai voulu raconter ça, comment on s'en sort. Et j'ai voulu aussi évoquer un sujet qui est bouleversant, c'est la psychiatrie à l'époque. Comment on traitait justement ce genre de traumatisme ce genre de traumatisme. À l'époque, il n'y avait pas de catastrophe aérienne, il n'y avait pas. Voilà, ça a été vraiment. C'est pour ça que, en plus, ce naufrage du Titanic est vraiment exceptionnel à l'époque. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc, comment on traitait ça, quoi. Et ça, j'ai voulu le raconter parce qu'il y en a encore des stigmates à New York. Il y a une île qui s'appelle Roosevelt Island, qui est à 150 mètres de l'Upper East Side. Hein, simplement, on y accède maintenant en téléphérique. C'est absolument magnifique. Et on y reléguait sur cette île, en fait, tous les rebuts de la société, ce qu'on ne voulait pas voir. C'est-à-dire, il y avait un asile de fous. Ça s'appelait Blackwell. Il y avait une prison. Il y avait un asile pour les SDF, les prostituées, les paralytiques. Enfin bon, tous ces gens qu'on ne voulait pas voir. Et j'ai voulu montrer à travers Molly, le personnage de la petite sœur,
qui est malade.
Qui est traumatisée. Je voulais montrer comment on traitait justement ces gens, surtout quand c'était des femmes. À l'époque, l'hystérie, c'était très vite décrété.
En fait, on traitait les fous, on disait ils étaient fous et on ne cherchait pas plus loin. Était lancé. Ils sont fous. Voilà,
ils sont fous, puis on traitait, voilà, comme vous dites. C'est-à-dire, les bains froids, les bains surprises,
les électrochocs,
ces choses-là, mais on allait surtout chercher, on cherchait pas la raison.
La lobotomisation aussi,
Bien sûr.
C'était terrible, ça aussi. C'était terrible.
Ah oui, bien sûr. C'était peu importé, de toute façon. Ces gens-là n'avaient aucune importance dans la société. Importance.
Alors, pour l'État, c'est d'autant plus compliqué qu'elle n'aime pas cette ville. New York, elle ne la comprend pas. Elle comprend pas son état d'esprit, les gens, ce bruit, cette fureur. Mais il va falloir qu'elle tienne à tout prix. Mais c'est curieux parce que on le sent au travers des lignes, ça transpire cette aversion pour cette ville. Elle voudrait se protéger, elle voudrait se recroqueviller, mais il y a cette petite sœur et elle faut qu'elle lutte. Alors on va pas tout raconter parce que sinon il y a pas l'intérêt d'acheter le livre. Mais il y a une souffrance en elle parce qu'il y a une lutte entre faire et le devoir faire et le devoir et puis en même temps vouloir se laisser aller. Mais elle va se battre.
Oui. Elle va se battre et cette ville, elle aurait pu débarquer à Buenos Aires. Buenos Aires, d'ailleurs, il n'y a même pas de port. Donc, elle aurait pu arriver n'importe où, dans le monde, au Japon.
Au Panama, peu importe.
Au Mexique. Peu importe la ville, elle vous a tout pris, de toute façon. Comment voulez-vous aimer une ville dans laquelle vous aviez placé tous vos espoirs et qui, en fait, a tout englouti? Donc, on voit aussi quand même à un moment, petit à petit, sans trop en dévoiler, que de toute façon, New York a une puissance telle de séduction, de toute manière, et de liberté, qu'au bout d'un moment, on sent qu'elle se force à ne pas l'aimer. On sent qu'elle va quand même essayer de découvrir et de voir ce que cette ville peut lui apporter. Et donc, on verra ses choix plus tard. Mais oui, de toute façon, c'est une ville où il faut se battre. C'est une ville où on vous dit d'oser faire les choses, mais c'est une ville aussi où il faut faire vite. Il faut faire vite pour réussir. Donc, en plus, on est en 1912, c'est une femme, donc c'est d'autant plus compliqué.
Oui, mais c'est une ville aussi que vous aimez, qu'on aime ou qu'on déteste. Il n'y a pas de juste milieu pour New York. Enfin,
oui, mais moi, vraiment. Mais je pensais la détester. Moi, je voulais pas y aller là, à l'origine. Et puis là, j'ai arrêté de compter à 30 ou 35 fois. Et c'est là, j'y suis dans deux semaines encore.
Ouais.
Je veux plus m'en passer.
C'est une ville. Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner également. Vous savez, en lisant votre livre, j'ai imaginé leur arrivée. Bien sûr, il est décrit, mais j'ai essayé d'imaginer leur visage, leur attitude. Elles découvrent cette statue de la liberté. Comme vous disiez, c'était une ville de l'espoir parce qu'elles partaient avec leur famille. On leur offrait, elles n'étaient pas malheureuses là où elles étaient, mais on leur offrait un espoir, une nouvelle vie. Et tout s'écroule. C'est ça aussi qui est terrible, c'est qu'il n'y a plus rien. Il aurait pu y avoir, effectivement, peut-être rester au moins un membre de leur famille. Mais là, il n'y a plus rien. Donc, cette ville de l'espoir devient la ville du désespoir. C'est ça aussi qui est difficile à vivre.
Oui, c'est difficile. D'autant que alors tout vous paraît glauque. Oui. Les ruelles sont sombres. Oui. On ne voit pas le soleil. Tout est passé au filtre du désespoir, en fait.
Oui.
Surtout que le gigantisme de New York, après être parti de Portsmouth en Angleterre, et une petite ville portuaire, une petite ville sur une île, une ville-île, c'est complètement, c'est un autre monde. Mmh. J'imagine bien qu'elle aurait eu l'impression que la statue de la liberté, avec sa torche, les guidait, si elles étaient tous arrivées, les six membres de la famille.
Bien
alors
sûr.
Que là, on a l'impression vraiment que cette statue, elle lui assène des vérités, c'est-à-dire tu as tout perdu. Perdu, tout est trop grand pour toi, tout est trop sale, tout est trop bruyant. Mmh. Et voilà, on a vraiment l'impression d'un gigantisme comme ça, dont elle a du mal sous lequel elle a du mal à redresser la tête.
Oui, c'est vrai. Eh bien, j'espère que ce qui va aider nos auditrices, auditeurs à relever la tête, c'est cette pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Laurence Perrin pour son dernier roman Après l'océan aux éditions Calman Lévy. Alors votre titre aussi est très évocatif parce que après l'océan, on imagine effectivement ce naufrage, cette mer immense qui a tout englouti, je disais les griffes du froid de la mer du Nord.
Oui.
Après ce champ de ruines qu'est ce naufrage, il y a le champ de ruines de leur vie face à une ville qui est immense, comme vous dites, les ruelles, on voit pas le ciel, on voit pas la lumière. Et c'est comment dirais-je, j'ai l'impression que elles ont le sentiment d'être seules au monde. Il y a plus rien autour. Après l'océan qui a tout avalé, maintenant il y a cette ville qui avale tout. Elles sont seules au monde. C'est aussi un désespoir humain très profond aussi.
Oui, bien sûr. Et puis cet océan, ça symbolise effectivement tout le vide, oui. Le vide qui est entre leurs deux vies, enfin leurs vies heureuses en famille, et cette nouvelle vie qu'elles vont devoir entamer malgré elles. C'est l'océan, c'est immense, c'est profond, c'est abyssal, et c'est très joliment dit ce que vous disiez tout à l'heure, les griffes du froid et de l'océan qui se referment sur elle, c'est exactement ça. Oui. L'océan est vivant, c'est un monstre qui
peut être impitoyable,
complètement, qui est bien plus fort que n'importe quoi, n'importe qui sur Terre. Voilà, c'est ce qui les sépare de leur bonheur.
Alors, elles vont faire des rencontres. Faut que je tourne autour des choses, mais elles vont faire des rencontres. Comme vous disiez tout à l'heure, elle va continuer à se forcer à se détester cette ville, mais progressivement, il va falloir apprivoiser les choses et que les choses aussi, que la ville les apprivoise, parce qu'il va falloir continuer, il va falloir se battre, il va falloir avancer. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est cette détermination, cette force dans le vouloir et dans le pouvoir.
Oui, parce qu'elle n'a pas le choix, l'État. Elle n'a pas le choix. En l'occurrence, c'est la sœur aînée. Oui. Elle s'en sort. Elle n'a pas le temps pour le deuil. Elle le dit plusieurs fois dans l'histoire. Oui. Ce qui est terrible, c'est de ne même pas avoir le temps de pleurer son mari, son père, sa mère, son frère. Elle n'a pas
toute
le temps
sa famille.
Pour ça.
Oui.
C'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Elle doit regarder droit devant elle. Elle doit se protéger sa petite sœur. Elle doit leur trouver un avenir.
Oui.
Et c'est vrai c'est d'autant plus compliqué, encore une fois, que ce sont des femmes et que si elles étaient restées dans cette vie qu'elles avaient avant, qui était tout à fait heureuse en Angleterre.
Ça aurait été bien moins compliqué.
Et d'autant qu'à l'époque, ces femmes-là, la sœur aînée, quoi, comme je le dis au début du roman, c'était celle sur qui on comptait. Si jamais les parents tombaient malades, c'est elle qui reprenait.
Elle a 24 ans. Elle a 24 ans, l'État.
Elle a 24 ans, voilà. Donc elle, ce qu'elle aurait aimé, c'est rester chez elle, s'occuper de ses enfants, si elle en avait eu, et puis s'occuper de ses parents, une fois que l'un ou l'autre aurait disparu, s'occuper du survivant. Sa vocation de fille aînée, de sœur aînée, c'est ça, mais pas si vite. Pas si vite. Là, ça lui arrive, ce rôle à endosser d'un coup de sœur aînée, ça lui arrive, elle a à peine 24 ans, et d'un coup, elle est veuve, orpheline, et en plus responsable d'une petite sœur. Elle n'est pas faite pour ça. Elle le dit plusieurs fois, elle aurait préféré mourir.
Oui.
Ça aurait été plus simple pour elle que d'être là et apporter toute cette charge sur les épaules. Elle aurait préféré mourir, elle le dit, oui.
Je me suis posé une question au travers de ces deux jeunes femmes, là, enfin, Molly est plus jeune. Est-ce que ça a été une façon aussi pour vous de rendre hommage à toutes ces hommes et femmes qui ont disparu,
bien sûr.
Dont certains, on n'a pas retrouvé les corps, hein, comme on le disait, l'océan a tout avalé. On a la liste, parce qu'il y avait la liste des passagers. C'était aussi une façon pour vous de continuer à perdurer les choses pour pas qu'on oublie.
Mais bien sûr, tout à fait. J'ai toujours été très, très émue par les témoignages. J'ai regardé beaucoup depuis très longtemps.
Oui.
Cette histoire du Titanic, elle ne m'est pas venue cette année, enfin l'année dernière, comme ça.
Je comprends.
Ça fait vraiment très, très longtemps, moi aussi, que je suis absolument passionnée par cette histoire, parce qu'elle symbolise par toute cette micro-société qui se retrouve sur un bateau, alors avec des séparations entre chaque classe, de manière à éviter,
avec des codes très stricts, très particuliers.
Avec des codes, bien sûr, avec des codes très très stricts, avec des coursives réservées pour chacun, de manière à ce que les riches ne croisent pas les pauvres.
Mais c'est incroyable.
Tout était fait pour que personne, que les classes ne se croisent pas. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment un hommage que je voulais rendre à travers ces deux jeunes femmes, à tous ces témoignages que j'ai vus, parce que, les Guggenheim, par exemple, il y a le musée à New York, Astor, c'est un nom qui est mythique à New York, on en a fait beaucoup sur eux, sur ces milliardaires morts, avec un verre de champagne à la main, qui se sont comportés, d'ailleurs, avec beaucoup de classe. Il faut aussi, c'est pas parce qu'ils étaient riches qu'ils étaient mauvais, c'était vraiment...
Ils se sont résignés.
Ils se sont résignés, et ils l'ont fait avec beaucoup de classe, il faut quand même pas l'oublier, ça, c'est-à-dire que ça n'a pas été le méchant riche qui essaie de prendre la place des pauvres dans les canaux. Ils ont respecté les femmes et les enfants d'abord. Et puis, une fois qu'ils ont vu de toute façon, ils ne montraient pas sur les canaux, certains d'entre eux ont mis un smoking, ont allumé un cigare, et sont morts de cette manière en pleine conscience.
En plein panache. Sauf l'architecte qui est monté dans un canot et qui s'est suicidé quelques années plus tard.
Oui, alors lui, ça a été vraiment Bruce Ismay.
Bruce Ismay,
c'était le président de la White Star Line qui a appareillé le Titanic.
Oui.
Alors Bruce Ismay, lui, c'est vraiment comporté comme un lâche. Quoi.
Oui, oui.
Ça a été vraiment quelque chose qu'il a poursuivi tout le restant de sa vie.
Oui.
Et il a eu droit au gros titre. On l'a pas épargné, hein, parce que il faut quand même se souvenir aussi. Enfin, se souvenir, on n'était pas nés, évidemment, mais il faut aussi se rendre compte que à l'occasion du naufrage du Titanic, ça a été vraiment la révélation de la presse.
Oui.
C'est-à-dire
que la presse
a joué tous les rôles. Elle a joué à la fois le rôle de presse à scandale, la naissance de la presse à scandale date de cette époque-là, parce qu'un tel était parti avec sa maîtresse, une telle était enceinte alors que M. Astor venait juste de divorcer.
Exact, tout à fait. Oui, il était avec sa maîtresse sur le bateau qui était enceinte.
Voilà, donc il y avait toute cette presse à scandale. Et d'un autre côté, il y a eu la presse qui dénonçait aussi, parce que grâce à la presse, on a pu retrouver la maman de deux petits orphelins français qui avaient été emmenés par leur papa. C'était les frères Navratil. Ils avaient été emmenés de Nice par leur papa, qui les avait enlevés à leur maman. Et grâce à la photo des petits enfants qui sont arrivés à New York sans leur père qui lui est mort, et ben la maman, on a pu relayer tout ça, et la maman à Nice a pu reconnaître ses enfants et venir les chercher. Donc tout ça aussi, c'est ça a été aussi l'essor de la presse. Enfin, vraiment, la presse a pris tout son rôle aussi dans ce naufrage.
Oui, c'est vrai. Alors l'État, qui est la plus âgée des deux sœurs, moi. C'est vrai que on fait souvent le parallèle, bien évidemment, quand on lit votre livre. En tout cas, moi, ça a été le cas avec le film Titanic. Et ça m'a fait penser à Rose. Vous savez, quand elle arrive à New York, elle se tourne vers le Statue de la Liberté, elle a ce manteau sur elle de son fiancé qu'elle a voulu absolument éviter avec le diamant dans la poche. Et l'État m'a fait penser à elle. C'est-à-dire qu'elle arrive, et elle est mouillée, elle a ce manteau, et puis que vais-je faire maintenant? Et puis après, on la retrouve quelques années plus tard. Elle a fait tout ce qu'elle avait promis à Jack, c'est-à-dire tout ce qu'on lui avait interdit, et je me suis dit, mais finalement, l'État, c'est aussi Rose.
Mais c'est ça, parce que moi, je vous avoue, ce qui me fait le plus pleurer dans ce film, c'est tout le passage où Rose meurt, sans vouloir faire un spoiler, elle est très très âgée, et qu'on voit toutes ces photos de sa vie. Après
le
Titanic, sur sa table de nuit. Et effectivement, on la voit monter à cheval en Amazone, on la voit
voyager. Oui.
Et je me suis dit, mais ça, je voudrais que ce soit un film.
Oui.
Que ça se résume pas à 46 secondes d'évocation comme ça à travers de quelques photos. Et c'est ça, justement, qui m'a fait me dire, moi, si je raconte un jour le Titanic, je commence à ce moment-là.
Oui.
Je commence à ces photos, en fait.
Oui.
Donc, l'État, bien sûr que j'ai pensé à Rose. En écrivant sur l'État.
Oui.
Sauf qu'elles n'ont pas.
Elles n'ont pas le même parcours, la même histoire, bien évidemment.
Non.
Bien évidemment.
Mais elles s'exaucent. Les deux s'exaucent.
Oui.
Enfin, sans vouloir trop en dire.
Oui, c'est vrai. Il y a une volonté. De toute façon, il y a une volonté
de s'exaucer.
Et puis, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais il n'y a pas le choix. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Alors après une telle aventure, parce que j'ai senti cette passion chez vous, ce décortiquage, si je puis le dire, les recherches, le détail, l'histoire, parce que vous êtes une fan d'histoire, entre autres, parmi vos passions, et ça, on le partage. Et quand je vous dis que j'ai vu ça sur le Titanic, j'ai dit je fonce, je vais lire Laurence Perrin. Après cette aventure, quels sont vos futurs projets, Laurence Perrin?
Alors mes projets, je commence parce qu'en fait un roman ça se commence pas comme ça en s'asseyant derrière une table en disant je commence aujourd'hui. Non, un roman en fait on l'écrit dans sa tête sans poser les mots pendant quelques mois.
C'est vrai.
Et c'est ce que je fais sans m'en rendre compte vraiment, sans le réaliser vraiment.
Oui.
C'est ce que je fais depuis que j'ai terminé le Après l'océan.
Oui.
Donc tout s'écrit dans la tête. Et donc là je vais commencer ces jours-ci parce que maintenant il faut que ça sorte, il faut que ce soit posé.
Oui.
Et donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que j'écris un roman, il faut qu'il soit très très différent du précédent. Je ne veux pas m'installer dans une spécialité.
Vous avez raison.
Et je veux surtout, d'une manière purement égoïste, mais qui après rejaillit sur le lecteur, je veux m'intéresser à quelque chose. Je veux me passionner pour quelque chose. Donc, je veux trouver un sujet. Mmh. Alors, tout ce que vous saurez pour le moment, le sujet est trouvé.
D'accord.
Il n'a rien à voir avec le Titanic.
Bon.
Et il ne se passera absolument pas dans une période lointaine.
Contemporain.
Il sera contemporain. La seule chose, c'est que même si ça se passe en 2020 ou en 2022, tout ce que je peux vous garantir, c'est que dedans, il n'y aura ni masque, ni Covid, ni même simple évocation de ce mot.
D'accord.
Voilà, on a ce pouvoir-là, ce choix-là, nous les romanciers, de pouvoir zapper cette période.
C'est vrai.
Et de dire, on a vécu quand même en 2021 et en 2020 comme dans un roman. Voilà. Donc, bon. Voilà.
En tout cas, c'était un véritable plaisir de vous rencontrer après l'océan, votre dernier roman aux éditions Calmann-Lévy. Ça a été un vrai bonheur de vous rencontrer après vous avoir lu et surtout de faire votre connaissance. Voilà, maintenant je m'attacherai dans vos pas à vous suivre, à vous lire et à vous regarder de loin en loin. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour ce nouveau roman.
C'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci, au revoir.
Au revoir.
Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure littéraire. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.